Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission Les Solidarités au-delà des mots, une émission soutenue par le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais. Ce mois-ci, nous nous intéressons à la problématique du développement durable dans les pays en voie de développement. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Christine Méniotte et Jean-Michel Bouvet de l'association Safaride. Bonjour.
Bonjour.
Et merci Bonjour. D'être là aujourd'hui. Mariam Damageux ainsi que Pierre Damageux de l'association KB Bénin, bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Et merci d'être là avec nous. Et Bernard Aignon qui est membre de l'association Greenpeace, bonjour.
Bonjour.
Et merci également à vous d'être présent aujourd'hui. Les pays riches tels que le nôtre ont fait du développement durable une de leurs priorités en prenant conscience de l'impact nuisible de certaines de leurs activités sur l'environnement. Qu'en est-il dans les pays en voie de développement? Vont-ils suivre le même chemin désastreux que nous, pays occidentaux, avons suivi il y a quelques années? Ou sont-ils en train de mettre en place de vraies solutions favorisant ce développement durable? Mais qu'entend-on par développement durable au juste? Le rapport Brundtland définit le développement durable ou soutenable par un développement, je cite, hein, qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Autre définition adoptée cette fois par le WWF, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Union internationale pour la conservation de la nature, publié dans l'ouvrage Ajustement structurel, environnement et développement durable. Définition donc qui dit ceci, le développement durable est centré à la fois sur l'homme, en ce sens qu'il vise à améliorer la qualité de la vie humaine, et sur la nature, en ce sens qu'il obéit à la nécessité de respecter la capacité de la nature à fournir les ressources et les services indispensables à la vie. Une définition qui inclut donc trois piliers essentiels au développement durable, l'économique, le social et l'environnemental. Il y en a peut-être un quatrième, ce que nous dira Christine Méniotte tout à l'heure, certainement. Le problème est que bien souvent, la question du développement durable en est réduite à la simple préoccupation environnementale ou autre cas. Les préoccupations environnementales ont été et sont sans doute encore en contradiction avec les préoccupations de développement économique, pour ne pas dire relégué au second plan, ce qui amène à un autre problème plus pernicieux qu'explique notamment Sylvie Brunel, géographe du développement qui enseigne à l'université Paris-Sorbonne et qui serait donc l'interprétation actuelle qui est faite du développement durable et qui se résume donc selon elle à ne plus toucher à la nature permettrait aux pays développés et notamment aux pays occidentaux de freiner le développement des pays du Sud et de maintenir leur population dans la pauvreté. Tout de même, les problèmes environnementaux existent bel et bien dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique. Problème de pollution de l'atmosphère par des gaz nocifs et des carburants de qualité douteuse, problème de traitement des déchets et des ordures ménagères, ou encore déforestation du Gabon et du Congo, où elle prend des proportions énorme. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais déjà demander à nos invités de présenter un petit peu leur association à tour de rôle et puis leurs différentes actions très brièvement. On commence par l'association Safaride peut-être.
Alors l'association Safaride, c'est une association de solidarité internationale qui œuvre au Burkina Faso. Qui s'est donné donc deux grands axes d'action, sensibiliser ici pour agir là-bas. Donc une de nos priorités, c'est de faire de la sensibilisation et de l'éducation au développement, j'allais dire à l'environnement, non, au développement. Et ça se répercute ensuite par des actions sur place au Burkina Faso, de développement durable. Améliorer les conditions de vie de populations de villages tout en respectant donc les quatre piliers du développement durable puisqu'il y en a un quatrième qui est le culturel. D'accord. Aujourd'hui, malheureusement, il y a énormément de langues et de cultures qui disparaissent.
Alors, on va passer également à l'association KB Bénin, si elle peut se présenter.
Oui, donc l'association Kabe Bénin, je suis Mariam Damajeu. L'association Kabe Bénin est créée pour aider les populations du nord du Bénin. La population qui est isolée de tout, hein, qui n'ont pas trop accès à l'éducation. Donc l'association intervient dans l'éducation et la santé. Donc elle a déjà fait, elle a créé il y a 10 ans, elle a fait beaucoup, beaucoup de choses, et environnement aussi, hein, parce que c'est toujours, il va avec, quoi. Voilà.
Merci beaucoup Mariam Damajeu. Et puis donc Bernard Aignon, vous faites partie, vous, de l'antenne locale de l'association Greenpeace, enfin l'antenne lilloise, hein, de l'association Greenpeace. Faut-il encore présenter Greenpeace? Oui, sans doute.
Oui, Greenpeace, alors association internationale, c'est même une ONG internationale, qui agit donc effectivement pour la protection de la planète sur différents aspects, le nucléaire, le climat, l'énergie, les OGM, agriculture durable, les forêts anciennes, c'est là beaucoup plus ma partie, et les océans. Alors, cette ONG se décline dans chaque pays, dont la France. Et en France, il y a une vingtaine de groupes locaux, dont le groupe local de Greenpeace Lille. Et j'ai assuré pendant longtemps, maintenant je cherche le relais, pendant une dizaine d'années, un peu plus même, la responsabilité de référent pour la protection des forêts anciennes. Donc on est en plein dans le vif du sujet, puisque là on va voyager en Afrique.
Très très bien, merci beaucoup Bernard Aignon pour toutes ces précisions. Alors je m'adresse donc aux associations donc Safaride et ainsi qu'à l'association Kabe Bénin, donc à Mariam Damajeu et puis Christine Méniotte. Comment sont perçues les questions et les préoccupations environnementales par les personnes que vous rencontrez sur place lors de vos interventions?
Donc là, concernant la situation, enfin, que nous on connaît au Bénin, bon, globalement, on sent quand même que les populations ne sont pas vraiment concernées, dans le sens où elles sont ignorantes pour la plupart, quoi. Et donc pour eux, ben, le développement durable, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je vais dire. Par contre, ils avaient l'habitude de pratiquer le développement durable sans vraiment le savoir, puisqu'ils utilisaient toujours des matériaux totalement renouvelables qu'ils allaient chercher dans la brousse. Actuellement, c'est plus le cas, ou de moins en moins.
D'accord. Et donc, effectivement, les matériaux qui sont utilisés actuellement sont souvent des matériaux peut-être importés, des matériaux plastiques.
Oui, puis après, ça peut être comme du ciment. Enfin, bon, le ciment est important, mais traditionnellement, ils s'en servaient pas, quoi. Donc, tout ça, ça engendre une industrialisation. Et puis, voilà, on utilise aussi le parpaing, etc., etc.
Mais donc, une méconnaissance plutôt de ce qu'est le développement durable. Hein.
Oui, oui, oui.
Voilà. Alors, est-ce que du côté de l'association Safaride, quand vous êtes intervenu, vous, sur le terrain, justement, Christine Méniotte Jean-Michel Bouvet, est-ce que vous avez pu constater, vous, un intérêt sur le développement durable, sur les questions de développement durable, ou est-ce que vous constatez la même chose?
Moi, je dirais que la population, je pense, est sensible à ce problème environnemental. Simplement, je pense que l'extrême pauvreté des habitants fait qu'ils se sont totalement démunis face à ce problème-là. Et leur préoccupation première n'est pas l'environnement. Hein, donc, on peut prendre comme exemple, par exemple, le bois, hein, le problème du bois de chauffe. Systématiquement, si on ne leur amène pas de solution intermédiaire, donc forcément, ils ont besoin de bois pour faire la cuisine. Et s'ils n'ont pas d'autres moyens de chauffer les marmites, ils vont continuer à aller chercher du bois. Même s'ils sont conscients, ils sont conscients parce qu'ils s'aperçoivent au quotidien qu'il est de plus en plus difficile de trouver du bois. Donc ils se rendent compte qu'il y a un malaise de ce côté-là, mais ils n'ont aucune solution pour pallier à ça.
D'accord. Alors, est-ce que vous savez quelle est la place du développement durable dans les pays où vous intervenez? J'entends aussi au niveau des autorités.
Alors, au niveau du Burkina Faso, c'est un sujet qui est aujourd'hui d'actualité, puisque depuis peu, il y a un ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Il y a une politique qui vient d'être mise en place, un plan, on va dire, quinquennal, sur l'amélioration donc de l'accès au développement durable. Il y a des stratégies qui sont mises en place. par le gouvernement. Le problème qu'ils rencontrent, c'est parfois la communication qui passe pas forcément avec la population. Comme l'a dit Jean-Michel, le problème des moyens, on a affaire quand même à une population très pauvre. Alors le Burkina Faso essaye vraiment d'être pas un modèle, mais de prendre ce sujet très au sérieux, puisqu'il a accueilli il y a 3 ans le sommet du développement durable africain. Mais dans la vie quotidienne, entre ce qui est dit au niveau du gouvernement et ce qui est fait sur le terrain, il y a encore un énorme fossé.
Très bien. Alors, Bernard Aignan, vous qui faites partie de l'antenne locale de Greenpeace à Lille, comment déjà vous réagissez peut-être à ces propos? Justement, le manque de moyens, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel.
Si vous permettez, je vais revenir un petit peu en arrière sur la notion de développement durable,
oui,
d'écologie, etc. En adressant déjà un remerciement à ces populations dites indigènes, hein, au peuple premier, parce que à leur contact, bon, je suis allé très peu, j'ai été une fois en Afrique, hein, mais tout ce que j'ai appris d'eux, justement, c'est retrouver la place de l'homme dans la nature. Et ça me paraît essentiel. Je pense que l'homme civilisé qui se dit développé, il a complètement perdu, du haut de sa tour, au 4e étage, hein, ou même dans un bureau, ou même dans une maison avec un beau jardin, il a complètement perdu le sens de la place de l'homme dans la nature. Or ça me paraît essentiel, et c'est ce que j'ai un peu retrouvé. Alors ça me fait quelquefois, du reste, l'impression d'être un peu asocial. Asocial parce que, ne serait-ce que quand j'ouvre le robinet chez moi, je me pose toujours la question, mais l'eau, d'où elle vient ? Et où elle va? Et c'est une montagne d'informations que l'on n'a plus. Or, l'homme de la brousse, l'homme de la forêt, l'homme de ces pays d'Afrique, hein, qui vit encore très pauvrement, il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour savoir ça. Il sait ce que c'est, puisqu'il va au fond du puits aller chercher son eau. Et il fait quelquefois 20 kilomètres pour aller chercher l'eau. Donc c'est en préalable et en premier, donc. C'est un remerciement que j'ai par rapport à ces populations dites, je dis bien, dites sous-développées. Alors parlons maintenant du développement dit durable, hein, soutenable, j'aime mieux cette expression-là. Problème, excusez-moi, c'est un peu catastrophique parce que j'ai abandonné pendant 1 an, 2 ans, cette mission par rapport à la protection des forêts anciennes. Liée à cette émission, à la préparation de la émission, je voulais remettre en ordre quelques connaissances, quelques données, et je m'aperçois qu'on n'a pas avancé, que les problèmes se sont ont augmenté dans 2 sens. Hein, augmentation des richesses pour les uns, augmentation de la pauvreté pour les autres. Je ne vais pas donner de chiffres, je ne suis pas spécialiste en chiffres, mais enfin, ce n'est pas compliqué. Hein.
Les chiffres, d'ailleurs, ont été donnés par l'association Oxfam France,
Oxfam,
très récemment. Oui.
85 familles ont autant de revenus que l'ensemble des pauvres de la planète. Hein. Donc, c'est un chiffre. Hein. Alors, ça va avec, en parallèle, ce qu'on constate au niveau des forêts anciennes, hein, les forêts anciennes, je rappelle, primaires, hein, qui sont là, qui ont suivi une simple évolution naturelle, c'est leur définition, hein, qui n'ont pas été touchées par l'homme et qui se trouvent en Amazonie, hein, dans les pays du Sud pour les forêts tropicales, au bassin du Congo, en Asie, mais exactement, bon, je ne vais pas parler de celles de Sibérie, de Finlande et puis du Canada. Nous, on parle beaucoup plus, hein, des forêts anciennes en dessous du Sud, dans les pays du Sud. Bon, eh bien là, c'est malheureusement la catastrophe. Et la catastrophe, je dirais pas seulement pour les populations concernées, pour les populations locales, mais je dirais, et là j'insiste beaucoup, catastrophe pour l'humanité à venir. Je m'inquiète beaucoup, moi, pour les générations à venir, et c'est pour ça que j'œuvre, c'est ma motivation. Hein. Que vont-elles devenir? Parce que si, j'ai dit bien, c'est les scientifiques qui le disent, c'est pas moi, je suis un simple citoyen, hein. Si les forêts anciennes étaient amenées à disparaître, dans 20 ans, il n'y a plus de forêts en Asie. Hein. par exemple, c'est un petit exemple. Dans 20 ans, si on continue, il n'y a plus de forêt en Asie. Bon, si c'est, il en va de même pour l'Amazonie, s'il en va de même pour le bassin du Congo, on va arriver à une augmentation de la température 8 à 9 degrés. C'est une catastrophe générale, mais pour l'ensemble de l'humanité. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Hein, l'effet boomerang, c'est-à-dire que on a envoyé un boomerang, vous connaissez, c'est du reste ces aborigènes hein, qui se servent du boomerang, mais le boomerang, il vous revient sur la tête. Et bien, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe, c'est-à-dire que l'Amazonie est en train progressivement d'être détruite par la main de l'homme, mais aussi par nos propres comportements. C'est-à-dire qu'elle s'assèche tout doucement et il y a des conséquences énormes, hein, ce serait trop long à expliquer, mais des conséquences énormes pour l'ensemble du climat, pour l'ensemble de la biodiversité, pour les toxiques qu'on est diverses, etc., etc. Et bien sûr, avant tout pour les populations locales.
Ça, c'est vrai, parce que tout ce que vous avez dit, monsieur, là, c'est très bien dit, parce que nous, au Bénin, on voit les conséquences. À cause de la forêt dévastée au nord du Bénin, il y a des érosions incroyables.
Alors je crois justement que cette déforestation, on peut la mesurer, d'ailleurs c'est présent hein, sur votre site en termes de spot, hein, c'est à peu près 3 terrains de football qui disparaissent toutes les minutes je crois.
Alors, c'était il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé la campagne, c'était un terrain de foot, un hectare, hein, toutes les 2 secondes. Aujourd'hui, c'est très difficile à évaluer parce que ça peut varier. Alors, ça a diminué un peu. C'était, je pense, 20 000 hectares en Amazonie par an. Excusez-moi, au niveau des chiffres, il faudrait que je les lise, mais peu importe, j'allais dire. Hein. Bon, ça a vraiment baissé jusque 2008. Or, il y a une dernière nouvelle qui nous est arrivée de la bouche même de la ministre de l'écologie hein, du Brésil, hein, c'est 5400 km² qui ont disparu dans l'année dernière.
5400 km², c'est énorme. C'est énorme. Très bien. Alors, il s'agit, bien entendu, malheureusement,
Excusez-moi, 5843 km² en hausse de 28%. Et c'est la moitié par rapport à l'année précédente, hein, 28% par rapport à l'année précédente. Et c'est annoncé ça le jeudi 14 novembre 2013 par la ministre de l'Environnement, Isabelle Teixeira.
D'accord, très bien. Et donc ça, uniquement au Brésil ?
Uniquement au Brésil.
Donc voilà, quelque chose à prendre effectivement en considération. Alors, bien sûr, la déforestation est un énorme problème. J'imagine que ce n'est pas le seul problème environnemental dans les pays du Sud. Il y en a d'autres.
Il y a d'énormes problèmes au niveau des océans. Au niveau, et vous verrez que, j'ai expliqué tout à l'heure que nous avions 5 grandes campagnes. Or, ces campagnes s'imbriquent les unes dans les autres. Vous allez dire, le nucléaire, ça n'a rien à voir avec les forêts. Eh bien, l'uranium, où est-ce qu'on va le chercher ? Où est-ce qu'on pense aller le chercher ? Hein ? Si ce n'est qu'en faisant de la déforestation quelque part en Brésil, quand on sait qu'il y a dans le sol, ou bien au bassin du Congo, quand on sait que le sol, il y a des métaux lourds, il y a tout ce qu'il faut pour faire des centrales nucléaires. Le Niger n'est pas couvert par les forêts, mais je rappelle quand même que le Niger, Areva est lié, c'est 20% de notre uranium. C'est là que sont irradiées les populations qui travaillent sans être tellement protégées. Et un rappel aussi, dans 20 ans, il n'y a plus d'eau potable au Niger. Qui est-ce qui va en subir les conséquences ? C'est les Nigériens eux-mêmes. Et on parle de développement.
Effectivement. Autre préoccupation environnementale, j'imagine, d'autres sujets qui vous préoccupent, Bernard Aignon ?
Le climat, l'énergie. Le climat essentiellement. Hein, la couper des arbres, faire des coupes sombres, c'est augmenter le CO2 dans l'atmosphère et c'est forcément changer le climat. Ça, je pense ne pas me tromper en disant que la déforestation, c'est à peu près 20% de gaz à effet de serre. C'est 20%, disons, d'incidence sur le climat.
Très bien. Alors, est-ce que, selon vous, selon votre organisation, en tous les cas, est-ce qu'il y a une prise en compte réelle de ces problèmes de la part des différentes autorités gouvernementales de ces pays ? Alors, c'est... Ce n'est pas évident, hein, on ne peut pas mettre tous les pays dans le même panier, bien évidemment. Est-ce que il y a des choses qui vous interpellent plus que d'autres, justement, au niveau des autorités gouvernementales?
Oui, ça, et là, je me réfère à une association, une autre association avec qui nous avons beaucoup travaillé. Hein, j'ai là un livre qui s'appelle « Les pillards de la forêt ». Qui est écrit par François-Xavier Verschave et puis Arnaud Labrousse. Arnaud Labrousse a du reste changé son nom parce qu'il aurait été poursuivi par pas mal de gouvernants. Les pierres de la forêt. Hein. L'association Survie, elle met justement en relief, je dirais, le fait que, après la colonisation, c'est De Gaulle hein, qui a donné avec beaucoup d'allant l'indépendance aux pays anciennement colonisés. Or, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a placé ses pions. Il a placé ses pions, à savoir qu'il y avait là des grands serviteurs de la France hein, qui ont été nommés présidents soi-disant démocratiquement. C'était quelquefois des rois, du reste, ou des empereurs. Hein. Et puis, la France s'est servie de ces gens-là pour continuer à exploiter la ressource de ces pays. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qui continue à se passer. Je vais prendre un exemple qui a été catastrophique et dramatique. Ça se passait en République démocratique du Congo, on est en plein dedans, et au Rwanda, où il y a une grande partie de forêt ancienne, hein, c'est là que se cachaient les Hutus génocidaires, hein, avec le grand génocide de Rwanda, dont on va célébrer, malheureusement, je ne peux pas dire célébrer, mais dont on rappelle le souvenir, c'est Rwanda, c'était il y a 20 ans. Alors, je rappelle aussi, il n'y a pas de stèle pour l'instant à la mémoire du génocide de Rwanda. Or, tout ça s'est passé hein, à la frontière de la République démocratique du Congo, en pleine forêt, en pleine brousse.
Alors, on va revenir. Alors, bien sûr, là, c'est un autre problème. Je pense qu'il faudrait une autre émission hein, pour parler vraiment de ce sujet du génocide rwandais. On revient justement à nos responsabilités de pays occidentaux. On l'a un petit peu évoqué. Est-ce qu'il y a des responsabilités, d'après vous, de ces pays et des entreprises aussi, de nous aussi, j'imagine ?
Des responsabilités, certainement. Certainement, les gouvernements occidentaux sont beaucoup trop dépendants des multinationales. Et c'est cela que Greenpeace dénonce dans ses campagnes, et puis en allant sur place, hein, notamment au Cameroun, les liens entre le nôtre, hein, gouvernement français, et puis d'autre part, les multinationales qui exploitent ces pays. Hein, c'est ce qu'on appelle la France-Afrique. Les entreprises sont impliquées dans le bois illégal. L'exemple plus récent, il nous a été donné par une action de Greenpeace le 8 janvier 2014. Hein, Greenpeace est intervenu dans le port de Caen où on a découvert un lot de grumes en provenance de où ? Bah, de la République démocratique du Congo. Ce bois était illégal parce que quand on pointe comme ça un bois, on fait une enquête avant hein, et on s'est aperçu qu'il était illégal. Or, on sait qu'il y a actuellement encore, malgré toutes les réglementations qui sont en vigueur depuis 2013, réglementations européennes, hein, 20 à 40% de commerce du bois qui est d'origine illégale. Une question que je me pose, franchement, les écoles de commerce sont florissantes à l'heure actuellement. Je voyais, on m'a montré quatre pages du Figaro ce matin, hein, faisant la publicité pour les écoles de commerce. Mais qu'est-ce qu'on y apprend ? Quelles sont les valeurs qui sont véhiculées dans ces écoles ? Si c'est pour faire du commerce avec les ressources des pays dits en voie de développement et de façon illégale, je me pose beaucoup de questions. Alors, des entreprises, oui, des entreprises qui travaillent là-bas sur place, il y en a des quantités. Hein, j'en ai fait une liste, je vais essayer de la retrouver. Le groupe germano-suisse Danzer, en 2008, il omet de payer 8 millions d'euros de taxes. Ça équivaut à la vaccination de 700 000 enfants, et ça en République démocratique du Congo. Les compagnies productrices d'huile de palme. L'huile de palme, vous savez qu'elle a son origine en Afrique, hein, et maintenant elle s'est exportée en Asie, où elle fait des catastrophes. Hein. Bon, les compagnies Soka Palme au Cameroun, et puis Feronia en République démocratique du Congo. Ça, c'est un rapport du comité catholique contre la faim dans le monde. Mmh. On travaille beaucoup avec eux parce qu'ils ont des analyses très très fines et ils sont sur place. Eh bien, la Soka Palme a bénéficié, écoutez bien, de fonds de la coopération française. C'est une filiale du groupe Socfin qui est détenue à plus de 38% par la compagnie Bolloré. Bolloré, hein, c'est la logistique au Cameroun. Il exploitait les forêts. Maintenant, il ne trouve pas mieux que de faire du transport. Bah, c'était très pratique pour faire acheminer le bois, hein, qui vient des grandes forêts. Alors, il se défend. Il se défend comment Bolloré ? Bah, simplement, il pourrait porter plainte par rapport à ce que je viens de dire. Hein, et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il porte plainte pour diffamation. Par exemple, le 15 octobre 2013, deux journalistes de Bastamag, ça doit être un organe d'information, ont été mis en examen. Autre société, Feronia, société canadienne, plantation et huilerie du Congo. Et puis c'est comme ça, la liste, elle est longue. Hein, Erax Farms, une plantation de palmiers à huile. Les tigres du Sumatra qui sont en danger, là. Ils sont en danger. Par qui ils sont protégés, pensez-vous par Deleuze, par Corvutz, par Protect Paradise, par Carrefour, je pense pas, hein. Par Oréal, par Reckitt, oui, j'ai oublié de dire au passage, vous le savez, hein, l'huile de palme, on la trouve partout. Depuis ce matin, si vous avez utilisé des cosmétiques en passant par le dentifrice ou de la margarine, voire même du beurre trafiqué, il y a de l'huile de palme dedans, certainement. Et puis, alors, là, je mettrai la médaille d'or, hein, c'est Monsanto. Oui. Monsanto, soja, coton, maïs au Brésil, en Afrique, le coton OGM, hein, tout aussi exigeant en engrais et inefficace contre les pucerons et les cochenilles. Hein. Et puis, ce fameux BT45, je peux me tromper, hein, qui est cultivé en Argentine et au Brésil, qui est mangé par les bœufs là-bas au Brésil, qui nous arrive sous forme de steak, ou encore qui sert de tourteau, le soja de tourteau, qui sert à nourrir nos animaux, les bœufs. Donc votre beefsteak que vous avez mangé ce midi, si vous en mangez encore, il est nourri avec du soja génétiquement modifié, même s'il a le label région France, Bourgogne ou Auvergne ou je sais pas quoi. Hein. Donc, médaille d'or à Monsanto. Hein. Et puis la société Vilmar, société négoce d'huile, financée par la Banque mondiale et de nombreuses banques européennes pour ses projets de déforestation.
Alors, bien entendu, ces propos n'engagent que vous, évidemment.
Tout à fait.
On est...
Mais avec quand même une vérification, parce que j'ai lu ça, c'est Greenpeace qui m'a donné les informations.
Bien sûr, et votre structure Greenpeace, tout à fait. Évidemment, est-ce qu'il y a, face à tous ces problèmes, toutes ces problématiques, quelles sont, d'après vous, les solutions urgentes à adopter ?
Solutions urgentes. D'abord, une réglementation, mais alors je dirais très sévère, par rapport à la déforestation. Il faut absolument arrêter, et alors ça ne peut être qu'international, hein, arrêter absolument cette déforestation qui est... Mais supposons que je sois un être complètement égoïste, mais par égoïsme, devenons généreux. Et par égoïsme, arrêtons ce massacre. Parce que c'est l'homme, c'est mes enfants, c'est ma famille qui va en subir les conséquences de tout. Et qui a commencé, on ne veut pas le dire, hein, qui a commencé à en subir les conséquences. On voit aujourd'hui, on commence à être troublé par les changements climatiques. Sachez qu'il y a un lien, ce serait trop long de l'expliquer, un lien entre la déforestation en Amazonie, ce qui se passe en Arctique, parce que l'Arctique reçoit par le biais de l'Amazone et par les courants tous les détritus et toute la terre, toutes les alluvions qui viennent d'Amazonie en nombre considérable. Et là-bas, au lieu d'être enfermé sous forme de glace, eh bien, comme l'atmosphère commence à se réchauffer, eh bien, ça part sous forme de CO2. Ça peut même exploser sous forme de méthane. Ça, c'est le permafrost qui explose sous forme de méthane. Et alors là, c'est au niveau changement climatique, ça a une incidence incroyable. Et qui a commencé, hein. Donc, je reviens sur les solutions. À tout prix, des zones forestières protégées. Ça ne veut pas dire arrêter d'exploiter le bois. On a besoin du bois, on sait ça depuis l'origine des temps. Hein. Pour les pays concernés, annulation de la dette. La dette, c'est du bluff. On fait croire, c'est quand même extraordinaire, on fait croire aux pauvres qui sont endettés. Mais c'est complètement affolant, alors que la dette, elle vient de la spéculation, elle vient des banques, hein, qui jouent avec l'argent, qui surévaluent un jour, qui dévaluent un autre jour. Ça provoque forcément une dette. Et on met les pays dits en voie de développement, et comme on nous met nous-mêmes, hein, en dette, et on doit rembourser une dette qui est complètement fictive.
Pour dire les choses avec... comment dire, on contribue, disons, au remboursement des dettes, hein. Voilà.
Oui, oui.
En quelque sorte. Hein.
Oui, oui. Chose urgente, annulation de la cotation en bourse, hein, des matières premières, notamment du blé. Hein, parce que, je ne sais pas si vous savez le circuit, hein, nos excédents sont cotés en bourse, et du coup, il part au Sénégal ou en Afrique, où il empêche finalement les paysans de vendre leur propre culture, puisqu'on trouve, du blé à pas grand-chose. Et donc, on va maintenant aller acheter des baguettes, alors que traditionnellement, l'Afrique se nourrit autrement. C'est quand même extraordinaire. Je prône une solidarité effective avec les ONG et les peuples en lutte. Et là, je vais me référer à une expérience, excusez-moi, là c'est en tant que citoyen, j'engage plus du tout Greenpeace, mais c'est tellement vivant comme exemple. C'est, vous savez quel café je bois le matin ?
Pas du tout.
Eh bien, ça s'appelle du café zapatiste. Vous savez que le Mexique a été colonisé, il y avait des forêts aussi autrefois, les forêts elles ont disparu, mais il reste encore des endroits où on cultive le café. Eh bien, le Mexique a été colonisé un peu comme tous ces pays du Sud, et il y a une résistance, la résistance des peuples, tout le monde connaît, je pense, un Zapata, hein, qui a donné un élan, et Zapata, il a été assassiné, mais il a donné un élan, une dynamique, et il y a actuellement un peu, je dirais, au Mexique, un État dans l'État. Alors bien sûr, il y a l'État, le gouvernement officiel, qui réprime l'État qui est né suite à la dynamique lancée par Zapata. Et il y a là des ordres, des genres de départements qui ont leur autonomie, hein, et qui cultivent pas seulement le café, mais qui cultivent beaucoup de céréales. Ces départements, on les appelle des caracoles. Hein, c'est dans les Chiapas. 5 parties avec chacune un représentant et un conseiller, révocable tous les 2 ans. Et nous-mêmes, Français du Nord, hein, on peut aller visiter ces Chiapas. On doit avoir d'abord l'autorisation de la communauté, et on y va pour observer, pour voir, pour analyser, pour critiquer au besoin. Hein. Et ce fait d'aller rendre visite à cette ONG, aux Chiapas, ça sert beaucoup, parce qu'on est des références extérieures, et ça fait une pression sur l'État mexicain qui n'arrête pas. Hein. Il y a des massacres. Hein. Il faut savoir que les Zapatas, quand on les a enfautés, ils sont cagoulés. Malheureusement, bon, ils sont obligés quelquefois de prendre les armes, même si à l'origine ils sont pacifiques. Hein. Mais donc, c'est une façon, je pense, exemplaire de dire qu'ici, sans trop voyager, On peut, c'est un peu ce que vous faites, hein, mais les personnes avec qui je me trouve, hein, on peut très très bien agir en permettant un développement, et alors là, un développement soutenable et durable de ces pays par notre vie quotidienne. Et c'est un petit peu ce que j'ai appris pendant ces 10 dernières années, c'est que je me suis dit, il ne s'agit pas de devenir pauvre, il ne s'agit pas du tout de devenir pauvre, il s'agit que chacun ait selon ses besoins, hein, tout en respectant la nature, et en renversant un peu l'ordre des choses, en partageant les richesses. Il y a eu, la semaine dernière, je pense, c'était Davos. Davos a révélé une chose, c'est que, ils ont constaté que le monde était divisé entre une minorité de grands riches et puis le reste de la pauvreté qui allait augmenter. Ils en ont fait un constat cynique. Seulement, ce constat cynique, à quoi ça va aboutir? Ça va aboutir à une destruction, pas de la planète, la planète elle va continuer à tourner, mais à une destruction, je pense, de l'humanité, parce que la planète, elle va tourner autrement. Donc c'est un peu ce que mon commentaire, là, je n'engage que moi, c'est moi en tant que citoyen.
On espère que, évidemment, ce sera le contraire, même si c'est peut-être un vœu pieux également. En tous les cas, est-ce que vous comprenez aussi que le concept de développement durable ne soit pas toujours bien perçu par les pays en voie de développement ?
Il est effectivement très mal perçu par beaucoup de... Ce qu'il y a, c'est que là, j'ajouterai un petit peu ce que ont dit mes amis, là.
Marianne Damageux et Pierre Damageux.
Voilà. Ces populations, en premier, elles ont faim. Elles sont affamées. Je ne sais plus le nombre d'affamés sur Terre, mais en particulier dans les pays du Sud. Et elles n'ont pas toute cette analyse, cette réflexion. Donc c'est d'abord manger. Mais quand on leur parle de développement durable, pour ceux qui ont la chance de bénéficier de l'éducation, il faut presque plus leur en parler, parce que c'est pas du développement qu'on leur donne. On leur demande d'avoir pour modèle ce que nous cultivons, et ce modèle est basé, je vais être très 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 clair, hein, là aussi, sur une économie qui est basée sur l'individualisme, la réussite individuelle, sur des mécanismes aussi économiques qu'on appelle le capitalisme, hein. Même les gens capitalistes ne se le cachent pas, ils disent c'est le capitalisme, ils le désignent aujourd'hui. Avant on avait peur, c'est un mot qu'il fallait proscrire, on le réservait à Marx, aujourd'hui non, le capitalisme c'est une école, hein, c'est une école, et il n'y a pas d'autre école que celle qu'on enseigne dans le commerce, hein, qui est celle qui conduit à la réussite, mais la réussite individuelle. Or, plus vous allez vers cette réussite individuelle, au moins il y a de solidarité, et au plus il y a de pauvreté. Or, ça conduit à la destruction de l'humanité. Ça conduit à la destruction de la planète qui va tourner très très différemment. Ça conduit au climat qui va complètement changer, hein. Mais heureusement, ces populations qui comprennent très mal et qui entendent très mal ce développement durable, eh bien, ça conduit à quoi aussi également ? À deux grands génocides. Le génocide des Indiens, dont on évite de parler. Le génocide du Rwanda. Hein. Il faut aller aux origines, hein, de ce génocide du Rwanda. Hein. Il y avait deux peuples, certainement, qui s'entendaient peut-être pas très bien, mais on les a exacerbés, et je crois que la France a son rôle. Hein. À côté de ça, il faut quand même... moi, je reste quand même avec un certain espoir, parce qu'il y a le combat des peuples. J'ai noté l'exemple du café zapatiste. Hein. C'est un peuple qui est en lutte, et... Il y a que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, qui restent quand même, qui pour moi sont très importantes. C'est par exemple Chico Mendes, malheureusement, qui a été assassiné le 22 décembre 88 par des tueurs à gages, mandatés par les grands propriétaires terriens, fondateurs des Sering Guerreros. Actuellement, il y a le combat exemplaire du vieil indien Raoni qui parcourt le monde, qui est un combat international et qui est pour dire arrêtons de ce massacre de l'environnement et ce massacre des populations locales. Il y a la lutte également qui malheureusement est quelquefois aussi armée, la lutte du peuple Mapuche au Chili. C'est qui mène une mobilisation collective. Simplement, ils réclament ce qui leur appartient, c'est-à-dire la terre. On oublie de dire que la colonisation, ça a été un accaparement qui continue par les multinationales. C'est l'accaparement de la terre. Qu'est-ce qu'elles font les multinationales ? Là, je me réfère aussi à tout ce qu'a dit notre organisation Greenpeace. Les multinationales, elles vont sur place, elles louent pour trois fois rien, trois ronds de carottes, j'allais dire, les terres à des populations et elles ont faim, elles vont prendre ce qu'on leur donne, et puis ces multinationales, eh bien, elles vont cultiver le coton avec des OGM qui vont nous empoisonner. Voilà ce qui se passe. Donc, ces populations, il y a aussi les Indiens. Les Indiens, je pense au Belo Monte. Belo Monte, c'est un grand barrage que veulent construire je ne sais plus quelle société et qui va mettre en déroute 20 000 personnes. Qui va mettre en déroute également, ces personnes vivent essentiellement du poisson et de la culture. Eh bien, tout ça pour l'énergie et pour le Brésil. Et on a quand même... comment voulez-vous que ces populations, elles disent, bah oui, continuez à nous chasser. Alors après, on va s'étonner que ces peuples vont grandir et grossir les villes, des villes comme Kinshasa ou autres villes, Rio de Janeiro, etc., toutes ces grandes villes où elles vivent très très mal et puis où elles n'ont qu'une envie puisqu'elles entendent parler de ce modèle du paradis français. Eh bien, il n'y a qu'une seule envie, c'est d'aller d'émigrer vers la France.
Alors Bernard Hignon, si je résume votre propos, grosso modo, c'est le développement durable, d'accord, mais pas celui qu'on propose aux pays en voie de développement actuellement. Est-ce que on peut concilier aussi, alors ça c'est tout un sujet, est-ce qu'on peut concilier capitalisme et développement durable ou soutenable ? Ça pourrait faire une émission entière, je pense. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements en tous les cas. Mariam Damageux, en tant qu'association intervenant au Bénin, quels sont les problèmes environnementaux que vous avez, vous, constatés sur place ?
Le problème qu'on a constaté sur place, c'est tout le problème que Moussou y avait parlé en même temps. Le problème de, par exemple, les pollutions qui arrivent, les gens qui jettent les piles, les plastiques qu'ils ont envahis, qui tuent aussi des moutons, les chèvres, sachant que les moutons, les chèvres, c'est les revenus des populations les plus pauvres. Donc tout ça, ça joue tout ça avec les problèmes de essence aussi, qui ajoutent les camions qui traversent les villages, qui est camions par les mauvais essences, tout ça. Et voilà, c'est le problème qu'on rencontre tous les jours. C'est tout aussi les gens qui habitent sur place, parce que nous, on est un petit peu ici, mais c'est vrai qu'on pense à eux tous les jours. Mais le problème est toujours là. On ne sait pas comment on va faire.
Pour compléter la problématique des plastiques, c'est lié aux animaux errants, parce que maintenant, on n'en trouve plus dans les villages. En fait, les animaux cherchent à manger et donc mangent dans les emballages. Et là, comme les emballages sont plastiques maintenant, donc ils mangent le plastique et puis ils meurent. Ils meurent d'occlusion ou de... À cause des plastiques, et donc voilà quoi, c'est aussi une...
ça cause beaucoup de problèmes effectivement, voilà. À la fois sur la faune, sur la flore, on sait aussi, il y a cette gigantesque île en plastique qui se situe, je sais plus,
Pacifique,
voilà, dans l'océan Pacifique, qui qui effectivement est assez effrayante. Quelles solutions avez-vous mises en place justement au village de Kabé où vous intervenez, Mariam Damageux et Pierre Damageux?
Donc les solutions qu'on a commencé à mettre sur place, c'est parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup à faire. Hein, c'est pas il y a des villages, il y a beaucoup de villages autour de Kabé. Donc les solutions qu'on a mis, on a mis le nettoyage du village de Guénée, où il y avait plus de 3 000 habitants à peu près Guénée. Et donc un nettoyage, un ramassage des plastiques pour éviter bien sûr les moutons et les chèvres qui le mangent, quoi. Donc c'est ça qu'on a mis en place.
Et ensuite, à côté, on développe aussi plutôt, enfin, dans tout ce qui utilise l'énergie, on essaie de développer au maximum l'utilisation de panneaux solaires pour éviter de mettre à la place un groupe électrogène, par exemple, qui cause aussi d'autres soucis d'utilisation, quoi, et qui a des mauvaises conséquences aussi sur les gens.
C'est tous les gens qui n'arrivent pas à l'utiliser, donc on évite ça. On est très content des panneaux solaires parce qu'il n'y a rien à faire, donc les villageois, ils arrivent à utiliser sans problème, quoi.
Mais moi, ce que je rajoutais quand même globalement, enfin, ce qui résume notre action et là où on voit qu'on est le plus efficace, c'est dans l'éducation. Mmh. On a développé des écoles aussi bien pour les primaires que pour les maternelles. Les maternelles pour donner envie aux enfants d'aller à l'école, parce que jusqu'à 7 ans, tant qu'ils ne sont pas à l'école, les gamins ils commencent à courir dehors et puis après ils n'ont plus du tout envie d'aller en classe. Donc, on voit un énorme changement chez les jeunes, un énorme. On est en contact avec maintenant des jeunes qui ont passé le bac maintenant et qui ont envie de revenir chez eux et de vivre au pays, quoi. Et donc ils cherchent des solutions, bien sûr, et donc nous on est là maintenant pour les accompagner et puis à les aider, à les aiguiller un petit peu, tout en évitant de reproduire ce que notre développement à nous. C'est un petit peu aussi le message qu'on essaie de passer. Donc c'est pas évident, parce que pour eux la France et chez les Blancs en général, c'est l'Eldorado, c'est là. C'est ce qu'ils visent et c'est comme ça qu'ils pensent que ce sera leur bonheur. Mais bon, nous, on essaye de passer un autre message et ça, c'est pas toujours simple.
Pas toujours simple, effectivement.
On essaye de leur expliquer que c'est vrai que pour venir ici, il faut, c'est difficile, tu peux pas trouver le travail. Donc, on essaye de sensibiliser au niveau de ça parce que c'est très important. Il y a il y a plupart qui demandent, on peut venir pour aussi vivre mieux. Mais je dis non, c'est pas pour vivre mieux. Il faut voir comment tu es venu, en fait. Quand tu es venu en bateau ou bien n'importe comment, t'es sans papier, tu vas pas vivre mieux. Donc, ils nous comprennent très bien pour l'instant.
C'est la fin de la première partie de votre nouvelle émission « Les solidarités au-delà des mots » consacrée ce mois-ci au développement durable. Merci à Mariam et Pierre Damageux de l'association Kabé Bénin, à Christine Méniotte et à Jean-Michel Bouvet de l'association Safaride, ainsi qu'à Bernard Aignon du groupe local de Lille de l'ONG Greenpeace. Vous retrouverez la diffusion de la seconde partie de cette émission le jeudi 20 février prochain à 11h sur Radio Plus, une émission soutenue par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais.